Bonjour, amis auditeurs de Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0. Vous êtes dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Jean-Claude Guérineau. Jean-Claude Guérineau qui était déjà présent lors de notre dernière émission, dont le prétexte était l'Adagio d'Albinoni, car j'avais eu le bonheur d'écouter cet adagio dans une version transcrite par Jean-Claude Guérineau pour ses formations, une formation de chœur et une formation du Philharmonia de Lyon. Donc aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Guérineau avec l'intention de lui faire présenter son parcours, de lui demander de nous parler des œuvres qu'il a soit dirigé, soit quelquefois créé, et de nous parler de ses goûts musicaux. Et donc je vais commencer par lui passer la parole en lui demandant de nous parler de sa première formation et notamment des maîtres qui l'ont formé dans sa jeunesse auprès notamment du Conservatoire de Paris.
Donc mes débuts, c'est tous mes premiers débuts, c'était avec ma maman qui était professeure de piano. Elle-même, sa maman était professeure de piano, donc la troisième génération, et elle avait travaillé le piano à l'École normale de musique, et avec comme amie Jeanne-Marie Daret, grande pianiste de l'époque, et avec laquelle j'ai commencé à aborder sérieusement les études de piano. Ensuite, j'ai été présenté à probablement le plus grand professeur de l'époque, au renommé international, qui était un merveilleux musicien, Pierre Sancan, avec lequel donc j'ai effectivement travaillé très sérieusement le piano. Après le piano, je me suis dirigé plutôt vers l'enseignement, et j'ai eu la chance d'avoir comme maître Pierre Wismer à la Schola Cantorum, Alain Weber pour la composition, André Chaland pour la composition, et puis pour la direction d'orchestre, Pierre Dervaux. Donc voilà, j'ai eu quand même des noms qui m'ont vraiment porté vers une carrière musicale que j'ai pu à la fois mener conjointement en tant que professeur et en tant que chef d'orchestre et chef de chœur.
Car je le rappelle, Jean-Claude Guérineau, vous avez mené une double carrière, une carrière notamment de professeur des professeurs de musique.
Voilà, alors, ce qu'on appelle formateur, j'étais formateur des professeurs d'école et des professeurs de collège et de lycée dans le cadre de l'Institut universitaire de formation des maîtres, l'IUFM. Donc ça, c'est un travail qui est tout à fait passionnant parce qu'effectivement, on travaille, je me souviens, Serge Baudot m'avait dit au cours d'une conférence ensemble, il m'avait dit, vous avez de la chance parce que vous, la musique, le matin vous travaillez avec des maternelles et vous faites de la création rythmique en tapant dans les mains et sur les genoux, et le soir vous dirigez le Requiem de Brahms. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir une vision de la musique vraiment du début jusqu'à un niveau assez intéressant sur le plan de l'interprétation.
Alors, à cette époque, quel compositeur peut-être avez-vous fréquenté, croisé dans le cadre de votre formation ?
Alors, comme compositeur, j'ai croisé vraiment, moi, c'est très, très succinct, c'est très rapide. On était en train de travailler à la Schola Cantorum sur le concerto pour orgue et orchestre de Francis Poulenc. La porte s'est ouverte et une tête est apparue, c'était celle de Francis Poulenc, et qui, voyant qu'on travaillait sur son concerto pour orgue, nous a dit « Oh, ça n'est jamais que de la musiquette !» Et c'est vrai que c'est resté un souvenir impérissable pour moi, et j'avais très envie un jour de diriger ce concerto, et c'est arrivé il y a quelques années, au cours d'un concert consacré uniquement à la musique française.
Eh bien, nous allons illustrer ce souvenir par un extrait du concerto pour orgue de Francis Poulenc.
Mmh.
Jean-Claude Guérineau, je n'ai pas eu le plaisir d'être avec vous dans l'émission précédente, mais c'est un grand plaisir, bien sûr, de vous rencontrer. J'ai une question à vous poser. Vous avez de multiples activités musicales. Bruno nous a expliqué que vous avez commencé votre carrière comme professeur des professeurs, en enseignant la musique à l'UFM. Et ensuite, vous avez commencé et puis développé votre carrière de chef d'orchestre avec des ensembles qui ont évolué. Et puis votre carrière également de compositeur. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela s'est organisé et s'est développé ?
Bien sûr, j'ai commencé ma carrière comme professeur à l'éducation nationale et un jour on m'a proposé de reprendre l'ensemble vocal de l'éducation nationale à Lyon, un ensemble vocal a cappella de très belle qualité. J'ai sauté sur l'occasion, ça m'intéressait de pouvoir travailler avec un chœur. Et puis l'année suivante, c'était toute une histoire, mais j'avais des très bonnes relations avec une dame à Lyon qui avait un magasin de musique et qui me faisait profiter de toutes ces nouveautés pour que je les fasse écouter aux élèves, aux étudiants. Et elle me fait découvrir un jour la sortie d'un disque de Handel, Israël en Égypte, un oratorio qui était pratiquement jamais donné, à part le Messie. Et ça m'a donné l'idée, effectivement, de monter cette œuvre que je trouvais magnifique, et de former un chœur et un orchestre. Et à partir de là, les choses ont continué à se développer, et donc le chœur s'est agrandi pour devenir un chœur qui pouvait rivaliser avec un orchestre, ce qui m'a permis évidemment de pouvoir monter à la fois des œuvres du grand répertoire, de toutes les époques. Je n'ai pas voulu me fixer sur le répertoire baroque, mais je voulais effectivement pouvoir découvrir tout un style de musique religieuse et non religieuse.
Car au départ, la première formation qu'on vous a confiée était une formation chorale.
Voilà, si j'ai bien compris. Chorale a cappella.
Voilà, chorale a cappella. Et c'est à ce moment-là que, donc, découvrant chez cette disquaire dont vous m'avez plusieurs fois parlé, avec, je dirais, presque tendresse, où
vous
envoyez beaucoup d'œuvres musicales et où vous envoyez d'ailleurs vos élèves les écouter. Donc ça veut dire que c'était un auditorium de découverte.
Absolument.
Pour, comme on a connu ça d'ailleurs à Bourg-en-Bresse, dans un magasin dont j'ai un grand souvenir. Bon, donc vous démarrez avec cette formation chorale, a cappella, et donc vous... Admirant cette œuvre de Handel, il vous faut bâtir un orchestre.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé ?
Alors, l'orchestre, c'est un orchestre, c'est un ami qui était organiste, Paul Coueffé, avec qui m'avait accompagné d'ailleurs dans le premier programme a cappella, enfin avec une ou deux œuvres avec accompagnement d'orgue, avec lequel il m'a trouvé plein de musiciens pour constituer un orchestre, plein de musiciens amateurs. Amateur, alors avec un grand A, parce que je trouvais que c'était des musiciens de très grand talent. J'avais des chirurgiens, j'avais des médecins, j'avais des professeurs, j'avais plein de professions et qui avaient tous vraiment un très bon niveau musical et avec lequel j'ai pu monter des œuvres très importantes. Et avec un effectif aussi, comment dirais-je, aussi complet que, par exemple, j'ai pu monter avec eux Elias de Mendelssohn, qui est un grand oratorio, qui demande un effectif d'orchestre, un effectif de chœur très important.
Donc, nous allons, pour illustrer vos propos, écouter un extrait d'Israël en Égypte de Handel.
Thank you.
Jean-Claude Guérineau, vous venez de nous expliquer comment votre carrière musicale a commencé, comme professeur, puis comme chef d'orchestre, constructeur, si je peux dire, d'ensemble. En examinant votre carrière, on découvre que vous avez une passion insatiable pour la découverte, puisque vous ne vouliez pas, et c'est bien comme ça, sans doute, vous ranger dans des casiers, avec un répertoire spécialisé, voire ultra spécialisé. Parlez-nous de vos grandes découvertes musicales.
Alors, effectivement, cette découverte d'Israël en Égypte m'a ouvert les yeux en disant mais il existe des chefs-d'œuvre que personne ne donne, qui sont un peu oubliés. Donc je me suis dit, il doit y avoir un répertoire extraordinaire. Et effectivement, je ne voulais pas me contenter de travailler sur uniquement du Handel, du baroque, et essayer de découvrir dans d'autres périodes musicales des chefs-d'œuvre absolus. Et c'est comme ça que, par exemple, quelques années après, j'ai monté Elias de Mendelssohn, l'oratorio Elias de Mendelssohn, qui était, à ma grande surprise, pratiquement jamais donné. Et ça a d'ailleurs changé depuis. Et puis, des œuvres de Lyonnais, par exemple, je me souviens que j'ai découvert une œuvre de Charles-Marie Vidor, l'organiste lyonnais, une messe pour deux chœurs, deux orgues, qui était tout à fait inconnue à l'époque. Et puis d'autres œuvres, la messe du Gloria de Puccini, le Requiem de Puccini, que peu de gens connaissent, mais qui est un petit chef-d'œuvre. Et puis, une œuvre que j'ai particulièrement aimé découvrir, c'est la Grande Messe des Morts de François-Joseph Gossec.
Alors, c'est un nom que les praticiens ou les mélomanes connaissent, mais souvent, effectivement, n'écoutent pas, ou pas du tout. Pourquoi Gossec ? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette œuvre ?
Alors, Gossec, bon, les gens qui ont fait du piano dans les classiques favoris, il y a une ou deux petites pièces de Gossec. Mais en découvrant cette œuvre, j'ai découvert un chef-d'œuvre absolu, sa Grande Messe des Morts. Et puis j'ai découvert un compositeur assez extraordinaire, puisqu'il a commencé sa carrière tout jeune, il est arrivé en France, il est belge. Il est né dans une commune belge, mais qui est devenue française. Donc on va dire que c'est un compositeur français. Et donc il est arrivé à l'âge de 16 ans dans l'orchestre de Rameau, et il est mort en 1829. En ayant connu Berlioz et Chopin arrivait à Paris à ce moment-là. Donc une vie extraordinaire, 96 ans. Et donc compositeur passionnant, qui a écrit plein de choses et qui a surtout rendu hommage à tous les compositeurs qu'il a découvert. Et cette Grande Messe des Morts, comment dirais-je, elle a énormément impressionné Mozart. Mozart était venu à l'époque, l'avait écouté, et il avait dit à son père en rentrant, j'ai écouté une œuvre de mon cher ami, ma sehr gute Freund, François-Joseph Gossec, un requiem magnifique. Et comme Mozart était une éponge, je pense, et on écoutera peut-être des extraits, que cette œuvre l'a beaucoup impressionné, et j'ai la faiblesse de penser que dans son requiem, Mozart s'est un petit peu emprunter quelques petites phrases musicales, quelques petites accompagnements d'orchestre qui font beaucoup penser au requiem, à la Grande Messe des Morts de Gossec.
Donc c'est en effet extrêmement intéressant cette histoire. C'est un petit peu, c'est différent, mais c'est un petit peu comme notre première émission, l'Adagio d'Albinoni, réécrit par un musicologue. Donc là c'est totalement différent. Mais Gossec écrit un requiem, Mozart l'écoute, en est impressionné, écrit son requiem, et Gossec...
Alors oui, voilà, chose intéressante, Gossec a fait, en 1760, il écrit cette grande messe, Mozart la découvre, à son tour, Gossec découvre le requiem de Mozart, il en fait une deuxième version en 1802 pour l'enterrement de Grétry. Et on y trouve des modifications intéressantes, notamment le fait de, à la fin de son Requiem, il reprend le début, comme avait fait Mozart. Donc, manifestement, la messe des morts de Gossec a influencé Mozart, et la deuxième messe des morts de Gossec est influencée par Mozart, et je trouve que ça, c'est un échange extraordinaire.
Voilà une belle histoire, et bien nous allons l'illustrer avec deux extraits, un extrait du Requiem de Gossec, puis un extrait du Requiem de Mozart.
Thank you.
Jean-Claude Guérineau, vous allez maintenant nous expliquer quelle a été votre activité en tant que chef d'orchestre, non seulement chef d'orchestre, mais créateur d'orchestre et de chœur, puisque vous avez dirigé en fait deux ensembles successifs, d'où cette évolution, le Sinfonia et le Philharmonia de Lyon.
Alors, donc, au départ, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait appel à des musiciens amateurs de très bon niveau, vraiment tout à fait remarquable. Et puis les activités s'étant un petit peu développées, le nombre de concerts devenant plus important, je ne pouvais pas faire appel à des amateurs qui avaient un métier par ailleurs. Donc j'ai commencé à envisager à créer un orchestre fait de professionnels, musiciens professionnels, que ce soit des professeurs dans les conservatoires, dans les écoles de musique, et puis aussi quelques élèves qui sortaient des conservatoires avec un bon niveau, et le tout épaulé par quelques musiciens appartenant notamment à l'époque à l'Orchestre National de Lyon. Donc cet orchestre m'a permis de développer de monter des œuvres de plus en plus compliquées, de plus en plus importantes, comme par exemple le Requiem allemand de Brahms, qu'on a enregistré pour la télévision. Et ensuite, grâce à la disponibilité des musiciens professionnels, j'ai pu monter des concerts pédagogiques. Alors là, c'est vrai que mon métier de prof à l'UFM et de chef d'orchestre m'ont permis de développer les premiers concerts faits dans les classes des élèves. Ça a commencé par le département du Rhône, où là, les musiciens de l'orchestre allaient dans les classes jouer leur instrument, montrer les partitions qu'ils avaient dans l'orchestre. Les enseignants, les instituteurs faisaient écouter les cassettes des œuvres qu'on allait jouer en concert. Et ensuite, le concert était donné dans les villages, dans les communes, qui pouvaient réunir plusieurs villages d'ailleurs ensemble, et là les enfants venaient assister à un concert en connaissant déjà bien les œuvres, et alors surtout en connaissant bien les musiciens qui allaient jouer, et ils étaient en pays de connaissance, et ça a donné vraiment très bons résultats, et ça a permis de toucher à peu près 6000 enfants, et de faire à peu près 150 concerts uniquement dans le cadre pédagogique.
Et dans le cadre de vos activités de chef, vous avez également, puisque vous êtes d'une formation pianistique, vous avez suivi une formation pianistique très, très solide, bien sûr, et prolongée, vous avez été aussi le soliste de votre orchestre. Vous
Alors,
voyez où je veux en venir.
Voilà, tout à fait. Donc la création de mon premier orchestre Sinfonia, avant ça ne s'appelait pas comme ça, vraiment l'orchestre Sinfonia, c'est quand il y a eu des professionnels. J'ai voulu monter un concert consacré à Beethoven. Ça me paraissait une évidence. Et donc, avec un programme assez chargé, puisqu'il y avait l'ouverture du Coriolan, le triple concerto pour piano, violon et violoncelle, un petit oratorio, Mer calme et revoyage de Beethoven, bien sûr, et puis la célèbre fantaisie pour piano, chœur et orchestre. Et là, je me suis dit, voilà, comme j'avais fait des bonnes études pianistiques avec des grands maîtres, eh bien, je vais essayer le challenge de jouer la partie de piano et diriger de mon piano les chœurs et l'orchestre.
Eh bien, pour illustrer vos propos, nous allons écouter un extrait de cette fantaisie où j'attire l'attention des auditeurs que la partition de piano est redoutable.
Thank you.
Claude Guérino, vous êtes connu, on vous voit notamment sur YouTube et on regarde le programme de vos concerts par des œuvres classiques qui correspondent tout à fait à vos formations de chœur et d'orchestre. Je pense à divers Requiem, je pense que vous avez dû jouer, bien sûr le vôtre, on y viendra, mais le Requiem de Verdi, le Requiem de Durifle. Vous me parliez récemment d'un Requiem que je ne connais pas, de Puccini. En l'occurrence, c'était plutôt une messe qu'un Requiem.
Non, c'est une petite pièce, très courte, un petit Requiem. Voilà. C'est d'ailleurs c'est de ce Requiem-là que j'ai eu l'idée d'en écrire à mon tour.
Donc, on peut dire des œuvres que l'on associe tout à fait au chœur et aux orchestres, mais votre parcours, qui a toute sa place dans notre émission, qui, je le rappelle, s'intitule « Musique au pluriel », eh bien, vous-même, vous avez pratiqué des musiques, hein, donc je viens parler de pluriel. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, bon, déjà, pas seulement que des requiems et des musiques religieuses, j'ai aussi diriger des opéras, des opéras de La Traviata, et puis des opérettes, que j'aime beaucoup l'opérette, et puis également une œuvre un petit peu particulière qui est un opéra, mais comment dire, c'est une œuvre, on va revenir encore à Poulenc, avec ses... C'est comment dire, j'ai du mal à appeler ça un opéra parce que c'est une œuvre tellement saisissante. C'est le dialogue des Carmélites. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qui a laissé une grande trace dans ma vie de chef d'orchestre. Et puis, alors encore une fois, on va retrouver mon travail de professeur. On m'a proposé, dans le cadre des rencontres des chorales scolaires du département du Rhône, de monter un programme consacré à Pink Floyd, U2 et Queen. Un programme que je connaissais peu, mais je n'avais jamais pratiqué, dirigé, et j'ai découvert avec un immense plaisir cette musique, et on a fait des concerts avec 400 choristes des classes de seconde, première, terminale. Et pour moi, ça reste un merveilleux souvenir. Et puis, j'ai fait une rencontre qui a été pour moi très intéressante. C'est celle avec Jacques Loussier. Jacques Loussier, qui était célèbre pour avoir mis Back on Jazz, trio Jacques Loussier, Playback. Alors, bon, les puristes... n'aimait pas beaucoup, parce que les jazzmen trouvaient que c'était pas du jazz, les musiciens classiques c'était plus du Bach. Moi j'ai trouvé que c'était et du jazz et du Bach, et c'était merveilleusement interprété. Et j'ai découvert qu'il avait écrit une messe, la messe Lumière, qu'il avait appelée messe baroque pour le 21e siècle, ce qui voulait bien dire que ça couvrait une période assez grande. Et j'ai pu diriger cette œuvre de nombreuses fois, notamment une fois pour l'inauguration de la cathédrale d'Évry, et puis dans plusieurs festivals en Allemagne. Et je dois dire que cette messe avait énormément de succès en Allemagne, et aussi en France, puisque je l'ai donnée une fois à l'auditorium Maurice Ravel, et une fois à la cathédrale Saint-Jean, et à chaque fois, les deux lieux étaient pleins, et les gens avaient... bien aimé cette musique un peu rock et baroque.
Eh bien, écoutons le Gloria de cette messe de Jacques Loussier.
Yeah.
Nous allons conclure cette émission par une œuvre que vous avez écrite, votre Requiem, qui sera d'ailleurs à l'affiche le 12 avril, samedi 12 avril à 18h à la Basilique des Nez, où d'ailleurs, comme tous les grands artistes, vous avez annoncé que c'était votre dernier concert. Donc je ne sais pas comment a fait Sarah Bernard ou comment ont fait d'autres très grands artistes qui quelquefois reviennent sur scène. Toujours est-il que vous avez annoncé, et d'ailleurs l'affiche le dit, c'est votre dernier concert. Ce qui va surtout nous intéresser, bien que nous regrettons que vous quittiez la scène, c'est le fait qu'à l'intérieur de ce programme, il va y avoir votre Requiem. Requiem que j'ai personnellement beaucoup écouté et qui m'a beaucoup touché. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce Requiem? Vous l'avez un petit peu dessiné en parlant de Puccini. Donc je vous laisse nous expliquer.
Tout à fait, en découvrant ce petit Requiem, parce que le Requiem pour moi c'était quand même des montagnes, c'est tous les grands compositeurs, et en découvrant ce petit Requiem qui était très touchant, très joli, très peu connu, mais c'est très bien, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi écrire un petit Requiem. Donc le Requiem étant de Puccini dans une seule partie, donc j'ai commencé à écrire le Requiem, puis je me suis dit on peut peut-être écrire le Dies Irae après, et puis peut-être le Lacrimosa, et puis pour finir Liberame, donc quatre pièces, voilà. Puis je me suis dit j'ai donné dans un premier concert et ça a eu beaucoup de succès, à ma plus grande surprise. Et
tous les grands artistes sont étonnés de leur succès, les grands compositeurs aussi. Mais
vous êtes gentil, non, mais j'ai vraiment été quand même très surpris. Bon, et puis on m'a encouragé à continuer, donc dans une année plus tard, pendant le Covid, donc j'ai complété ce Requiem par un Benedictus, un Sanctus et un Aeus Dei, ce qui finit par faire un Requiem, qui dure 53 minutes. Il est à peu près la même durée plutôt que celui de Mozart. Mais c'est la seule comparaison qu'on puisse faire avec celui de Mozart. Mais voilà, donc, et puis je me suis dit que c'est vrai que les compositeurs ont écrit tous des Requiem en y mettant, je pense, pour moi, c'est en général, c'est sublime ce qu'ont écrit tous les compositeurs dans un Requiem. Donc moi j'ai essayé d'y mettre tout ce que j'avais dans la musique, tout ce que j'aimais dans la musique et tout ce que mes maîtres m'avaient apporté. Certains me disent d'ailleurs qu'il y a des apparentés harmoniques avec Francis Poulenc, et pour moi c'est un beau compliment.
C'est vrai que dans notre émission avec Paul, nous
nous aimons faire une boucle. Donc nous avions commencé par vous faire parler de vos maîtres. Dans vos maîtres, vous y aviez mentionné Francis Poulenc. Et là, de vous-même, vous nous dites que dans votre musique, il y a des traces, une imprégnation de Francis Poulenc. Je serais tenté de dire que tout ça est parfaitement normal et s'inscrit dans l'histoire. Lorsqu'on écoute le premier concerto de Beethoven, on y trouve du Mozart. Donc, ne soyons pas surpris que vos maîtres aient laissé une trace dans votre sens musical. Nous allons écouter le Benedictus de votre Requiem. Thank you. avez écouté au cours de cette émission tout d'abord le concerto pour orgue de Francis Poulenc avec à l'orgue de Saint-Eustache Thomas Hospital et l'orchestre des jeunes musiciens d'Île-de-France dirigé par David Moral Soriano. Puis d'Haendel, Israël en Égypte, œuvre chère à Jean-Claude Guérineau qui l'avait montée en tout début de carrière et elle était à l'époque peu jouée. Donc Israël en Égypte, joué par le groupe The Sixteen, dirigé par Harry Christopher. Ensuite, toujours une œuvre chère à Jean-Claude Guérineau, le Requiem de Gossec, en l'occurrence l'Agnus Dei, joué par l'orchestre et les chœurs de la Suisse italienne et le groupe vocal Cantemus, suivi immédiatement, car il y a un lien entre les deux, par l'Agnus Dei du Requiem de Mozart, pour le coup joué par les chœurs et l'orchestre Philharmonia de Jean-Claude Guérineau, le 21 avril 2013 en l'occurrence. Ensuite, de Beethoven, la fantaisie chorale, et la dernière partie, le final, joué par l'immense pianiste Martha Argerich, avec Charles Dutoit dirigeant l'orchestre du Théâtre Colonne. Enfin, en chemin de traverse, le Gloria de la messe baroque du XXIe siècle de Jacques Lussier qui avait beaucoup travaillé sur la musique de Bach, joué de manière contemporaine avec une formation de jazz. Et donc, en l'occurrence, il s'agissait du Gloria de sa messe baroque. Puis, de Jean-Claude Guérineau lui-même, de son requiem, le Benedictus, enregistré avec ses chœurs et son orchestre Philharmonia, le 27 novembre 2021. Je vous souhaite un bon mois de mars, et nous vous retrouvons, Paul et moi, pour notre émission du mois d'avril. D'ici là, bonne écoute de Radio B. À bientôt.